Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 et nous lirons les 5 premiers versets. Apocalypse 8, à partir du verset 1er, nous lisons « Quand il, Jésus, ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. » La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. On arrive donc ici à l'ouverture du septième sceau. Et avec l'ouverture de ce dernier sceau, on pourrait s'attendre à voir la seule chose qui reste à voir, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus-Christ. On a vu avec l'ouverture des sceaux précédents les calamités qui vont toucher la terre pendant toute l'histoire de l'Église. On a vu ensuite le cri des témoins, des martyrs au ciel. Au chapitre 6, on a vu le début du jugement final, et ensuite au chapitre 7, la description du peuple de Dieu qui est scellé, qui est en sécurité. Donc il ne reste plus que le retour de Christ. Mais nous voyons à l'ouverture de ce septième sceau un grand silence dans le ciel. Premier point, donc, l'ouverture de ce septième sceau nous amène un silence, premier mot sur la feuille, un silence dans le ciel. Nous sommes à la fin de l'histoire et tout le monde est en quelque sorte bouche bée. Le commentateur dit « Le silence est la réponse de la création face à l'arrivée imminente de Dieu pour juger. » Cette idée, on la retrouve dans les prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, chez Zacharie 2, verset 13, « Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. » Mais il y a deux façons de comprendre le silence ici. Et la première, c'est que le silence reflète donc l'émerveillement, la stupeur, devant le Seigneur souverain qui est sur le point d'arriver dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Et là encore, on retrouve cela dans l'Ancien Testament, où le silence est exigé avant la venue du Seigneur, en particulier avant sa venue pour juger. Sophonie 1, verset 7. « Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. » Le silence, donc, que l'on voit ici, annonce la venue, deuxième mot sur la feuille, la venue du Seigneur, et en particulier sa venue pour juger. Un commentateur le dit de cette manière-là, « Un premier châtiment va frapper les méchants, et ce châtiment inspire une telle crainte et un tel étonnement aux habitants du ciel qu'ils en restent sans voix pour un long moment, une demi-heure. » Ce silence donc parle de la stupeur, de l'émerveillement quand le Seigneur est sur le point d'apparaître. Mais le silence sert aussi pour marquer un point dans ce livre. Si on était au premier siècle, dans une des sept églises à Philadelphie ou à Sardes ou dans une autre d'église d'Asie et que l'on entendait pour la première fois ce livre qui nous serait lu sans avoir connaissance, bien sûr, des autres chapitres, on penserait que arriver à ce stade, arriver à ce septième sceau, que nous sommes là, nous arrivons à la fin. Mais bien sûr, nous savons qu'il n'en est rien. Et il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être révélées. Nous verrons plus tard ce que tout cela, les choses de la fin vont être développées davantage, en particulier au chapitre 21 et 22. Ici, il nous est simplement dit qu'il y a le silence. Il y a le silence dans le ciel avant la venue, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres aperçus que nous allons voir tout au long de ce livre, d'autres perspectives du plan souverain de Dieu pour le salut de son peuple, le jugement du monde. Mais juste au moment où on s'attend à ce que le Seigneur apparaisse et que l'on ait une description de son retour, il nous a dit qu'il y a le silence. Et cela, en fait, nous amène à faire une pause. Troisième mot sur la feuille. Quand on entend, on lit ce silence d'une demi-heure, ça nous amène aussi à nous faire une pause et à refaire un peu le point d'où nous en sommes. Nous avons vu dans la première partie de ce livre, les chapitres 1 à 3, cela nous présente la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La gloire du Seigneur Jésus-Christ au milieu de son Église. Et nous avons vu les sept lettres adressées aux Églises qui nous donnent l'instruction du Seigneur Jésus-Christ à toute son Église, dans tous les âges et partout sur la terre, dans toutes les périodes de l'histoire. Nous avons ensuite vu la deuxième partie de ce livre, les chapitres 4 à 7, qui nous présente la perspective de l'histoire avec l'ouverture des sceaux. Là encore, soulignant la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est digne d'ouvrir les sceaux de ce livre. La troisième partie qui commence ici au chapitre 8, et qui va nous amener jusqu'au chapitre 11, présente l'histoire en la décrivant avec la sonnerie des trompettes, des sept trompettes, et qui annonce le jugement de Dieu. La quatrième partie de ce livre part du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Et là, nous avons les symboles. L'histoire est racontée avec les symboles du dragon, de la bête. Et la cinquième partie, les chapitres 15 et 16, parle de l'histoire avec les sept coupes, les sept coupes de la colère de Dieu. Et la plupart des évangéliques aujourd'hui considérer ces descriptions dans un ordre chronologique, séquentiel. Aujourd'hui, on va, dans beaucoup d'endroits, entendre qu'on a d'abord les sept sceaux, ensuite les sept trompettes, ensuite les sept coupes. Et d'après ces personnes, l'histoire future du monde est décrite par la succession de ces choses. Et pour ces personnes, donc, l'ouverture du septième sceau précède les sept trompettes. Mais nous avons déjà dit, et on va le souligner encore une fois, qu'il y a des raisons pour rejeter cette interprétation. Et une des raisons importantes, et nous allons le voir au fur et à mesure, c'est que on voit des parallèles, quatrième mot sur la feuille, des parallèles très clairs entre l'ouverture des sceaux, le son des trompettes et les coupes qui sont déversées sur le monde. Ce qui se passe quand les trompettes résonne et que les coupes sont versées, ne peut se passer qu'avant le jugement final de Dieu. Et ce jugement final, nous l'avons vu, est déjà décrit avec l'ouverture du sixième sceau. Le sixième sceau nous parle, nous décrit tout le cosmos, tout l'univers est plié. C'est la fin de toute chose. C'est la destruction de la terre, la destruction de toute la création, du cosmos, des montagnes, des îles. C'est le jugement final. Et donc les événements qui sont décrits quand les trompettes sonnent et quand les coupes sont versées sont des événements qui se passent sur la terre et doivent donc se passer avant l'ouverture du sixième sceau. Donc ça ne peut pas être une lecture chronologique. Par exemple, nous verrons plus tard au chapitre 8 et au verset 10, la troisième trompette qui sonne et une grande étoile ardente tombe du ciel. Mais au chapitre 6, avec l'ouverture du sixième sceau, nous avons vu que, au verset 13, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Donc, il n'y a plus d'étoiles. Donc, il n'est pas possible de comprendre cela de manière chronologique. Ce qui est décrit sous la troisième trompette doit se passer avant l'ouverture du sixième sceau. Les sceaux, les coupes, les trompettes, les coupes sont donc des représentations parallèles de la même histoire, de la même période de jugement qui va de l'ascension du Christ jusqu'à son retour dans la gloire. On ne peut pas lire ce livre de l'Apocalypse comme un livre qui nous parle de l'histoire future, comme beaucoup le font. Non, ceux qui le font tombent dans une confusion terrible. Il suffit de regarder les croquis, les schémas qu'ils essayent de mettre en place. C'est une confusion totale. Mais ici, donc, nous avons des descriptions parallèles. Et chaque description va apporter quelque chose. Des descriptions parallèles, mais le thème, cinquième mot sur la feuille, est le même. Jésus-Christ est Seigneur, il est souverain, il règne, et avec lui, son peuple est vainqueur, même au milieu des difficultés présentes. Chaque description va s'appuyer, et nous allons le voir, sur une partie de l'Ancien Testament. Quand Jean, par exemple, a décrit que le peuple était scellé au chapitre 7, il s'est appuyé sur un passage d'Ézéchiel 9. Ici, au chapitre 8, quand nous allons voir les trompettes que les anges vont sonner, bien sûr, cela nous rappelle, par exemple, Josué. Mais nous allons voir qu'il y a un parallèle entre les malheurs qui sont relâchés et les plaies d'Égypte que nous lisons en Exode. Il y a donc différentes perspectives, mais qui s'appuient toujours sur l'Ancien Testament. Et ces descriptions couvrent toujours la même période. Mais plus on avance, et on va le voir, plus les choses de la fin et plus le retour de Christ va être accentué, et on verra davantage de descriptions sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. La vision des sceaux a souligné le jugement de Dieu en mettant l'accent sur la retenue de Dieu avant l'exécution de son jugement, puisqu'il veut sauver son peuple, il veut sceller son peuple, qu'aucun membre de ce peuple ne soit oublié. Les sept trompettes vont souligner la victoire du jugement de Dieu. Les sept coupes vont souligner la colère de Dieu. Et après cela, nous lirons au chapitre 16, verset 17, une voix forte qui s'écrie du trône, c'en est fait. Mais l'ouverture du septième sceau ne produit pas que le silence dans le ciel. Cela nous amène au deuxième point. L'ouverture du septième sceau nous révèle aussi le feu. Sixième mot sur la feuille. Au verset 2, au verset 2, nous voyons sept anges qui se tiennent devant Dieu. Ces anges vont apparaître tout au long de cette section. Ils se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. On ne nous donne pas l'identité de ces sept anges, mais il y a deux interprétations possibles. La première nous renvoie au chapitre 1. Dans la vision que Jean reçoit, il voit le Seigneur Jésus-Christ qui se tient au milieu de sept chandeliers, au milieu de cette église, et il tient dans sa main sept étoiles. Et l'interprétation de ces étoiles nous dit que ces étoiles sont les anges des sept églises. Et certains pensent donc que ici nous avons les sept anges des églises auxquelles Jean écrit. Et bien sûr, nous avons déjà dit que le nombre 7 décrit quelque chose qui est complet. Nous avons vu cela, que les sept églises sont bien sûr des églises réelles au premier siècle, mais ce sont aussi celles qui représentent, qui décrivent toute l'Église tout au long de l'histoire. C'est bien sûr une possibilité. Une autre approche suggère que nous avons ici les archanges. On en connaît deux, le livre de Daniel et le passage en Jude 9 parle de Michaël et Luc 1 parle de Gabriel. Bien sûr, la tradition juive, elle a donné les noms des cinq autres. Mais en plus du nombre 7, qui parle de quelque chose de parfait, de complet, nous avons l'article défini. Il ne voit pas des anges qui se tiennent devant Dieu, mais il vit les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et cela serait un argument pour décrire ici les archanges qui se tiennent directement devant Dieu. Mais avant qu'aucune trompette ne sonne, on voit au verset 3 un autre ange qui vient. Et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et le verset 4 nous précise que la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et une fois qu'il a accompli ce ministère, nous disons au verset 5, que l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y a des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. L'ange vient avec les prières des saints. Prières qui sont accompagnées de parfums pour être agréables. Il les verse comme une offrande et ses prières s'élèvent devant Dieu. Et il prend l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jette sur la terre. Et nous avons, rappelez-vous, c'est toujours l'ouverture du septième sceau. Donc ce sont des événements qui sont associés avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur avait dit en Luc 12, verset 49, « Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. » Cela fait partie de sa mission. Il est venu sur terre pour mourir pour les péchés de son peuple. Il est venu sur terre pour ressusciter, pour la justification de ce même peuple. Il est venu sur terre afin de pouvoir monter au ciel victorieux. Il est venu sur terre pour qu'à la fin de l'histoire, il jette le feu pour éliminer le mal et faire entrer la nouvelle création. Tout cela est associé avec l'ouverture du septième sceau. Il y a le silence, oui, mais il y a aussi ce feu qui est jeté sur terre pour éliminer le mal et faire entrer la nouvelle création. Mais il me semble qu'il est clair, d'après ce passage, et d'après d'autres passages bien sûr, que tout cela est une réponse aux prières de l'Église. En particulier, nous l'avons déjà vu, les prières des témoins au chapitre 6, les témoins que nous avons vus sous l'ouverture du cinquième sceau, chapitre 6, verset 10, qui ne cessaient de crier « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Et donc, ici, à l'ouverture du septième sceau, nous avons ce jugement final et Christ répond à leur prière. Il venge son Église et il revient pour la chercher. Cela va nous être développé plus tard. Mais ce matin, nous voulons nous attarder sur ce troisième point, la place de la prière, septième mot sur la feuille. À la fin de cette section, donc avec l'histoire qui est décrite comme un livre que le Seigneur ouvre et dont il ouvre les sceaux, la fin de cette section s'entremêle un peu avec le début de la section suivante. Au verset 2, Jean nous présente donc ces anges qui se tiennent devant Dieu. Et sept trompettes leur furent données. C'est le début de la troisième section. On va le voir à partir du verset 6. Mais ensuite, on revient à la fin de la deuxième section avec l'ouverture des sceaux, avec l'ouverture du septième sceau. Et quand cela arrive, quand il y a un entremêlement de ce genre, il y a quelque chose d'important qu'il faut remarquer, quelque chose d'important qui se passe. Verset 2, nous avons les anges ou les archanges qui reçoivent donc les trompettes. Et puis au verset 3, donc un ange vient et en quelque sorte il vient les interrompre. Il vient les interrompre avant qu'ils ne commencent à sonner. Leur trompette. Et cet ange qui interrompt vient avec les prières des saints qui sont mélangées avec les parfums. Et en fait, quand un ange vient interrompre d'autres anges, ce qu'il dit ou ce qu'il fait, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et ce qui est mis en avant ici, ce sont les prières des saints, les prières du peuple de Dieu. Bien sûr, nous allons voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir encore des descriptions du jugement de Dieu sur ce monde. Mais le point qui est mis en avant ici, ce sont les prières du peuple de Dieu. Et nous voulons voir cela sous trois points. Le premier, c'est que la prière est le moyen, huitième mot sur la feuille, le moyen terrestre par lequel Dieu accomplit ses desseins dans l'histoire. C'est ce qui est souligné dans les versets 3 à 5. Cet ange, comme j'ai dit, vient interrompre les autres. Pourquoi ? Pour qu'il puisse verser sur l'autel les prières des saints avec les parfums. Et ensuite qu'il puisse reprendre l'encensoir et jeter du feu, le feu de l'autel sur la terre. Ce qui est mis en avant, c'est la force de ce lien qui nous unit à Dieu par cette alliance de grâce dans laquelle il nous a fait entrer. Dieu a aimé un peuple. Il a fait entrer ce peuple dans cette alliance. Ce peuple crie à lui. Et Dieu est fidèle. Il entend leur cri et il répond. Et cette dynamique, cette relation entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même, on la retrouve donc tout au long de l'histoire. C'est à travers la prière que les desseins de Dieu sont accomplis dans le monde. Pourquoi mettre l'accent sur la prière ? Si on est honnête avec soi-même, et si l'on se connaît, et qu'on connaît notre tendance naturelle, on peut comprendre pourquoi nous avons besoin de réaliser ce qui compte réellement, ce qui fait une différence dans ce monde. De réaliser toujours et encore que le principal moyen que Dieu utilise pour accomplir ses desseins, ce sont les prières de son peuple. Pourquoi est-ce qu'il faut le souligner ? Parce qu'on a tendance à négliger la prière. On va préférer l'action. On va préférer des choses qui se voient plutôt que la prière dans le lieu secret. C'est une réalité qui, malheureusement, est vraie pour toute l'Église. Notre tendance naturelle est de se focaliser sur les choses qui se voient et non pas sur la prière dans le secret. On veut faire les choses nous-mêmes et on oublie de prier. Par contre, la parole de Dieu, quand elle parle de bataille spirituelle, elle place la prière en premier. Elle met l'activité humaine en second, seulement si elle est nécessaire. Mais c'est d'abord la prière. Un des exemples le plus remarquable se passe dans l'Ancien Testament. Vous connaissez sans doute l'histoire de Sanchérib et de l'invasion de Juda en l'an 701 avant Jésus-Christ. Avant son père, le père d'Akaz, Akaz, qui est le père d'Ézéchias. Akaz invite les Assyriens à venir l'aider pour combattre les nations autour, pour combattre ses voisins. C'est une grosse erreur, bien sûr. Les Assyriens viennent. Les Assyriens aiment l'endroit et ils s'y plaisent et ils veulent l'acheter. Ézéchias, lui, donc le fils d'Akaz, est plus sage, il craint l'Éternel. Il ne va pas adorer les idoles comme son père. Sanchérib n'aime pas cela. Et Sanchérib va revenir avec toute son armée. Il va y avoir des conflits. Et devinez qui gagne. Ce n'est pas Juda. L'armée de Juda est complètement détruite par cette armée immense des Assyriens. Et parfois, on peut se sentir comme cela, comme Ézéchias. On voit le monde nous envahir. On ne peut pas arrêter le monde. On ne peut pas empêcher le monde qui se lance et qui se dirige toujours plus vers l'erreur, dans le mal, dans la rébellion contre Dieu. Tout ce que nous, on fait, est ignoré. Ézéchias est là, il est perplexe. Tout le pays disparaît, il ne lui reste plus que Jérusalem. Et le peuple est enfermé derrière les murs de Jérusalem. Et on arrive à cette scène en Ésaïe 36, où Sanchérib va envoyer son bras droit, Rabshaké, et il va commencer par se moquer de Juda, devant les murs de Juda. Devant les murs de Jérusalem. Il est intéressant de noter, entre parenthèses, que Rabshaké se tient au même endroit où, une génération avant, Ésaïe s'est tenu pour empêcher Akaz de faire appel aux Assyriens. Ceux qui prennent des notes, vous pouvez le comparer entre Ésaïe 7, verset 3, et Ésaïe 36, verset 2. C'est l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Et on pourrait développer cela, en tirer des leçons. Là où une génération trahit Dieu, la génération suivante va connaître la moquerie de la part de l'ennemi qui va venir se moquer de l'Église au même endroit où l'Église a trahi Dieu. Mais ça donnera l'occasion peut-être d'une étude plus tard. Et Rav Shaké leur dit, rendez-vous, vous n'avez aucune chance, votre Dieu n'est pas capable de vous délivrer. Arrêtez de l'adorer, adorez notre Dieu. Et il se moque de Judas. Et qu'est-ce que doit faire Ézéchias ? Le prophète Ésaïe va vers lui et lui dit, il ne te reste qu'une chose, et c'est la prière. Et parfois, c'est la même chose. Dieu enlève tout sur quoi on s'appuie. Il enlève tout ce qui est autour de nous, afin que nous saisissions, que nous prenions dans nos mains ce qu'il nous a donné. Un privilège, dixième mot sur la feuille, le privilège de la prière. Et Ézéchias va dans le temple et il prie. Et quand on lit sa prière en Ésaïe 37, versets 16 et suivants, on pourrait très bien trouver cette prière dans le livre de l'Apocalypse. Ésaïe 37, versets 16 et suivants. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. On peut très bien imaginer les gens de la cour se demander, voyant l'armée des Assyriens autour de Jérusalem, en disant « c'est pas bon pour nous ». La ville va être envahie. Que fait le roi ? Le roi, il prie. Qu'est-ce que ça va nous amener ? Quel bien est-ce que cela va nous amener ? Parfois, on peut même arriver nous-mêmes à penser cela. Mais le lendemain matin, quand ils ont regardé au-dessus des murailles, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que l'ange de l'Éternel était descendu pour frapper le camp des Assyriens. Et tuer 185 000 hommes. Peut-être que c'était un des sept archanges avec une des trompettes que nous avons ici en Apocalypse. On ne sait pas. La prière est efficace. La prière est efficace parce que c'est le premier moyen, terrestre par lequel Dieu se glorifie en accomplissant ses desseins dans l'histoire. Et ce n'est pas qu'une seule histoire encourageante, comme certains pourraient le croire, dans l'Ancien Testament. Non, nous avons tout plein de récits dans l'Ancien Testament qui nous parlent de cette réalité. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Et c'est d'abord par la prière que nous nous engageons dans cette bataille. Certains vont dire, mais je pensais que vous croyez dans la souveraineté de Dieu. Si Dieu est souverain, pourquoi est-ce que vous priez ? La souveraineté de Dieu et la prière ne s'opposent pas. Dieu est souverain à la fois dans notre prière et dans la réponse qu'il donne à notre prière. Nous le prions parce qu'il est souverain, parce qu'il règne, parce qu'il dirige toutes choses. Nous le glorifions par la prière, en faisant appel à sa volonté souveraine. Et on retrouve cela tout au long de l'histoire, tout au long de la parole de Dieu et tout au long de l'histoire. Là où on voit de grandes choses se passer, là où on voit l'Esprit de Dieu œuvrer avec puissance, on y trouvera toujours une Église qui prie. Onzième mot sur la feuille. Quand une Église prie, et intercède, et prie Dieu, le feu vient du ciel sur la terre. Un de nos plus grands défauts, il faut le reconnaître, c'est l'absence de prière. On met la prière à la deuxième, troisième, quatrième place. On arrive à la prière de temps en temps. On est tellement impressionné par ce que l'on voit, par les activités qui peuvent être légitimes, rappelons-nous, elles peuvent être légitimes, tout à fait. Mais on peut tellement être impressionné par ce qu'on voit, qu'on oublie la chose essentielle. Et la vision que nous avons ici, l'ouverture du septième sceau est claire. Nos prières comptent, nos prières, ce sont ce qui fait la différence. La chose qui est nécessaire, c'est que l'Église prie. Dans beaucoup d'églises, il n'y a plus de réunion pour prier. Il y a des concerts de louanges. Mais il n'y a plus de moment où l'Église se retrouve pour prier, pour intercéder, pour demander que la volonté de Dieu se fasse sur terre comme au ciel. Nous connaissons les assauts du monde sur notre foi, sur la morale dans la vie quotidienne. Et on se retrouve comme Ézéchias. Le monde est comme Sanchérib. Le monde semble remporter la victoire. Il suffit de regarder autour de nous, il suffit de regarder ce qui se passe à la télé ou dans les magazines, ce qui se lit dans les magazines. Et on peut répondre sur le même pied d'égalité, mais très souvent, la prière est mise au deuxième rang, ou peut-être même encore plus loin. Le monde est toujours meilleur que nous en ce qui concerne les choses du monde. Jésus le dit en Luc 16, verset 8, « Les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Le monde sera toujours plus fort en ce qui concerne les choses du monde. Il aura une armée d'avocats pour défendre ces points. Il aura une plus grande puissance médiatique. Oui, mais nous avons l'arme spirituelle de la prière, qui est plus puissante que tout ce que le monde peut offrir. Non pas à cause de nous, mais à cause de celui à qui nous nous adressons, Dieu lui-même. La prière, donc, est l'arme la plus puissante que nous possédons, plus puissante que toutes les armées du monde. Et même si nous faiblissons, la prière entre les mains de Dieu est puissante pour amener le jugement sur la terre et le salut à son Église. C'est le premier message, donc, de ce septième sceau. La prière est ce que Dieu utilise pour faire bouger l'histoire, pour amener le jugement et le salut. Et l'ange offre les prières. La deuxième chose concernant la prière, c'est que la prière des chrétiens est sûre, ou les prières des chrétiens sont sûres d'être reçues, d'avoir une réponse, 13e, 12e mot sur la feuille, d'avoir une réponse de la part de Dieu. C'est le rôle que joue le parfum dans ce passage. L'ange, versets 3 et 4, l'ange donc rajoute des parfums aux prières avant de les offrir à Dieu. Parfois, certains comparent la prière aux lettres que l'on peut envoyer. Et ils se disent que, voilà, on risque de faire quelque chose de travers. La prière va être incomplète. Elle va être mal formulée. Elle va nous revenir sans avoir atteint sa destination. Et quand il prie sans être confiant de recevoir une réponse. Mais l'ange nous montre ici, au contraire, que toutes les prières du peuple de Dieu arrivent, montent vers Dieu. Il les reçoit toutes et il répond à toutes les prières. Parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois c'est pas tout de suite. Mais toutes les prières font la différence. Pourtant, quelque chose doit être fait avec nos prières pour qu'elles soient acceptables. Nos prières sont souvent remplies de défauts. Et parfois, on s'en rend même compte nous-mêmes. À la fin de notre prière, on se dit en nous-mêmes, cette prière était catastrophique. Parfois, notre prière manque de sagesse. Mais de toute façon, le péché, 13e mot sur la feuille, va affecter nos prières et va rendre nos prières inacceptables aux yeux de Dieu. Dieu n'accepte pas ce qui est corrompu. Il est pur, il est parfait. Il n'accepte rien de ce qui est corrompu par le péché. Et la question est, quel parfum va agir pour que ces prières qui sont si remplies de défauts soient acceptables devant Dieu? La réponse est, ce n'est pas un ange, parce que les anges ne sont pas des médiateurs. Mais ce qui rend nos prières acceptables devant Dieu, c'est la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa vie parfaite, sa mort expiatoire, son intercession actuelle. Voilà ce qui rend nos prières acceptables. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et encore une fois, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une image dans l'Ancien Testament? Et bien sûr, la réponse est oui. On est dans l'Apocalypse, et comme j'ai déjà dit, l'Apocalypse est rempli d'allusions à l'Ancien Testament. Et l'image ici vient du passage en Lévitique 16. Lévitique 16 parle du jour de l'expiation, ou des expiations. C'est le jour où le souverain sacrificateur entrait dans le temple, derrière le voile, dans le Saint des Saints, en apportant le sang de l'agneau sacrifié. Il venait pour faire l'expiation des péchés de son peuple. Et on lit au verset 12 et 13 de Lévitique 16. Aaron prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Le jour des expiations nous pointe nos regards, bien sûr, vers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le survol de l'Ancien Testament, nous lisons au sujet de ce passage de Lévitique 16, ce commentaire, « Le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur portait un brasier plein de charbon ardent. Dans le lieu très saint, une fois à l'intérieur, il jetait du parfum odoriférant sur le charbon pour que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. De la même manière, Jésus remplit le ciel de son parfum. Son intercession précieuse répand une odeur agréable alentour. Il fait valoir le droit que son œuvre sur terre est achevée. Il étend ses mains meurtries, montre son côté percé, et prouve que tous les termes de l'alliance de grâce ont été respectés, que le péché a été puni et son peuple libéré. Qui accusera les élus de Dieu? » C'est l'intercession du Seigneur Jésus-Christ qui rend nos prières pures et qui rend nos prières d'une odeur agréable. Et j'en précise au verset 3 que ce sont les prières de tous les saints. 14e mot sur la feuille, de tous les saints qui s'élèvent devant Dieu. Et nous savons, nous l'avons déjà dit, un saint n'est pas un chrétien spécial. C'est un pécheur qui a été lavé dans le sang de l'agneau, qui est séparé du monde pour servir Dieu. C'est la description de tout vrai chrétien. Tout vrai chrétien est un saint. Et donc nous avons les prières de tous ceux qui ont été séparés du monde, qui ont été séparés pour Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas été lavés dans le sang de l'agneau ne verront pas leur prière s'élever devant Dieu. Parce que c'est qu'au travers de Jésus-Christ que Dieu accepte et répond aux prières. Ce sont les prières des saints qui s'élèvent devant Dieu. Ce sont elles que Dieu répond, parce qu'elles sont adressées en Christ. Mais cela souligne aussi, puisqu'il est question des prières de tous les saints, que même le chrétien, je dirais le plus simple, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qui prie pour le royaume de Dieu, peut avoir l'assurance que ses prières sont acceptées par Dieu et qu'elles recevront leur réponse selon sa volonté qui est parfaite. Et Paul nous précise, nous dit que même l'Esprit nous aide dans nos infirmités, dans notre faiblesse, lorsque nous prions. Nos prières s'élèvent avec l'assistance de l'Esprit, la médiation du Fils, et elles s'élèvent devant Dieu, et il y répond. Mais la troisième chose au sujet de la prière, c'est que la plus grande prière de l'Église, c'est de prier pour que le royaume de Christ vienne, 15e mot sur la feuille. La prière, nous avons dit, est le moyen terrestre que Dieu utilise pour faire avancer ses desseins dans l'histoire du monde. La prière compte parce qu'elle s'adresse à Dieu, elle vient à Dieu au nom de Jésus, grâce à son ministère, à son intercession. La grande prière de l'Église est la prière pour la venue du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu au chapitre 6 les témoins, les martyrs qui criaient à Dieu « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tardes-tu ? » C'est une prière pour voir le royaume de Dieu s'établir avec le jugement des méchants et le salut du peuple que Dieu a choisi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a lui aussi enseigné dans la prière modèle. Bien sûr, nous devons prier pour nos besoins quotidiens. Nous devons prier pour le pardon de nos fautes, de nos manquements. Nous prions prier d'être gardés de la tentation. Mais au début de la prière, ce qui est prioritaire, ce qui doit réellement compter avant tout, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nos prières devraient mettre l'accent d'abord sur le royaume de Dieu, sur le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour que ce royaume vienne, qu'il vienne maintenant. Comment ? Par la propagation de l'Évangile, par la croissance de l'Église, par l'obéissance du peuple de Dieu. Et nous savons que le royaume du Seigneur Jésus-Christ viendra à la fin, avec l'apparition soudaine du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, pour sauver son peuple et juger les méchants. Oui, nous devons prier pour nos sujets personnels. Nous devons venir nous décharger sur lui de tous nos soucis. Mais nous devons aussi prier pour le zèle, avec zèle, pour la propagation de l'Évangile, la croissance de l'Église, une nouvelle génération de prédicateurs, affermis dans la vérité, qui n'ont pas honte de l'Évangile. Et prier aussi pour le jugement de Dieu sur le mal qui existe dans notre société. Cette prière, cette requête « Que ton règne vienne » est une requête qui va recevoir une réponse glorieuse un jour. Et le livre de l'Apocalypse se termine avec cette prière. Apocalypse 22, verset 20. L'Église crie, « Viens, Seigneur Jésus !» Et nous avons ces paroles réconfortantes du Seigneur lui-même qui dit, « Oui, je viens bientôt. » 16e mot sur la feuille. « Oui, je viens bientôt. » Quelle merveilleuse réalité pour nous de savoir que le Seigneur Jésus-Christ revient. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à prier. Que nous soyons de ceux qui ne cessent d'intercéder, d'user de ce privilège que nous avons. De ne pas tomber dans le piège de mettre la prière au deuxième, troisième, quatrième rang, mais d'user de ce privilège que nous avons, de venir devant ce trône de la grâce et de prier. C'est le moyen terrestre que Dieu utilise en premier pour accomplir ses desseins dans ce monde. Prions donc, usons de ce privilège qui est le nôtre. Hâtons ce jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Soyons prêts pour ce jour du retour de Christ. Et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.